Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai choisi de consacrer cette émission à un sujet historique peu connu, mais qui méritait ô combien, vous vous en rendrez compte par vous-même, d'être remis au goût du jour, à partir d'un ouvrage de Patrick Clark de Dromantin qui s'intitule « Les réfugiés jacobites dans la France du XVIIIe siècle » ou « L'émigration vers la France de la noblesse catholique fidèle à Jacques de Stuart ». Donc je vais vous présenter tout à l'heure, ou je vais le faire maintenant, mes invités. D'une part, évidemment, Patrick Clark de Dromantin, auteur de plusieurs ouvrages sur les Jacobites, dont ce monumental ouvrage, qui va recevoir le prix Renaissance le 30 janvier prochain, prix qui lui sera remis par le professeur Jean de Viguerie, que nous aurons tout à l'heure au téléphone en ligne à partir du studio. Également dans le studio, Monsieur O'Hara, qui est conseiller à l'ambassade d'Irlande, puisque principalement ces jacobites sont venus d'Irlande, et je remercie Monsieur O'Hara d'être présent à la fois à cette émission et à cette manifestation du 30 janvier prochain lors de la remise du prix. Et puis, nous avons également invité Monsieur Patrice O'Kelly Farrell, qui appartient à une famille de jacobites, qui a une ascendance jacobite, tout comme d'ailleurs M. Clark de Dromantin, lui-même a une ascendance jacobite. Les jacobites étant, je le rappelle, les partisans de Jacques de Stuart. C'est la raison pour laquelle on les appelle les jacobites, par opposition aux williamites, c'est-à-dire les partisans de Guillaume d'Orange, qui était, je le rappelle, le gendre de Jacques de Stuart, et qui l'a combattu. Et puis, comme invité sur ce plateau, à côté de moi, toujours fidèle au poste, Bénédicte, qui va vous donner lecture tout à l'heure des messages. Et puis également, invité permanent, Jean de La Fontaine, dont j'ai retenu une fable. C'est pas toujours très facile de trouver une fable de La Fontaine qui se rapproche un tant soit peu du sujet évoqué. Mais compte tenu du fait que les jacobites se sont révélés par un caractère particulièrement industrieux dans cette intégration en France au cours du XVIIIe siècle, puis par la suite XIXe, XXe, j'ai retenu la fable qui s'intitule « Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils du roi ». Écoutons Jean de La Fontaine. Quatre chercheurs de Nouveau Monde, presque nus, échappés à la fureur des ondes, un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi, réduit au sort de Bélisaire, demandaient aux passants de quoi pouvoir soulager leur misère, de raconter quel sort les avait assemblés. Quoique sous divers points, tous quatre ils fussent nés, c'est un récit de longue haleine. Ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine. Là, le conseil se tint entre les pauvres gens, le prince s'étendit sur le malheur des grands, le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée de leur aventure passée, chacun fit de son mieux et s'appliqua aux soins de pourvoir aux communs besoins. La plainte, ajouta-t-il, guérit-elle son homme ? Travaillons, c'est de quoi nous mener jusqu'à Rome. Un pâtre ainsi parlait, croit-on, que le ciel n'est donné qu'aux têtes couronnées de l'esprit et de la raison, et que de tout berger comme de tout mouton, les connaissances soient bornées. L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon par les trois échoués au bord de l'Amérique. L'un, c'était le marchand, savait l'arithmétique. « À temps par mois, dit-il, j'en donnerai leçon, j'enseignerai la politique, » reprit le fils du roi. Le noble poursuivit, « Moi, je sais le blason, j'en veux tenir école. » Comme si, de vers l'Inde, on eût eu dans l'esprit la sotte vanité de ce jargon frivole. Le pâtre dit, « Ami, vous parlez bien, mais quoi ? Le mois à 30 jours, jusqu'à cette échéance, jeûnerons-nous par votre foi ?» Vous me donnez une espérance, belle mais éloignée, et cependant j'ai faim. Qui pourvoira de nous au dîner de demain ? Ou plutôt, sur quelle assurance fondez-vous ? Dites-moi le souper d'aujourd'hui. Avant tout autre, c'est celui dont il s'agit. Votre science est courte là-dessus, ma main y suppléera. À ces mots, le pâtre s'en va dans un bois. Il y fit des fagots dont la vente, pendant cette journée et pendant la suivante, empêcha qu'un long jeûne à la fin se fît tant qu'ils allassent là-bas exercer leur talent. Je conclus de cette aventure qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours, et grâce au don de la nature, la main est le plus sûr et le plus prompt secours. Voici pour Jean de La Fontaine, qui est toujours merveilleux, et j'ai retenu cette fable donc parce que ça souligne justement cet esprit industrieux, cette et vous verrez tout à l'heure, tout au long de cette émission, combien cette émigration jacobite s'est révélée extrêmement industrieuse. Alors, je vais maintenant, pour vous présenter le sujet, et avant que nous n'allions en liaison tout à l'heure le professeur Jean de Vigry, je vais vous lire, pour vous mettre dans la situation de cet ouvrage, la quatrième de couverture de l'ouvrage. À la suite de l'éviction de Jacques de Stuart, roi catholique d'Angleterre, par son gendre protestant Guillaume d'Orange, lors de la glorieuse révolution de 1688, les partisans du souverain légitime, plus connu sous le nom de Jacobite, se regroupaient derrière lui en Irlande pour la reconquête de son royaume. Vaincu en 1690 à la bataille de la Boyne, plus de 25 000 soldats jacobites, accompagnés de leurs familles, s'exilèrent en France pour fuir les persécutions édictées par les lois pénales à l'encontre des catholiques qui entraînèrent, cas unique dans l'histoire de l'Europe moderne, l'exode de toute une aristocratie. Le présent ouvrage étudie les conditions dans lesquelles les jacobites se sont insérés dans les élites dirigeantes françaises par leurs alliances matrimoniales et par leur activité au service du roi et de l'Église. Mais c'est surtout dans le domaine de l'économie du royaume qu'ils ont rendu les plus éminents services grâce à de nombreux transferts de technologie. L'auteur s'est attaché notamment à dévoiler la remarquable synergie entre les noblesses françaises et jacobites, cette dernière étant à l'origine pour partie d'une noblesse d'affaires extrêmement dynamique. À partir d'une abondante documentation tirée d'archives publiques et privées, ce livre retrace toute l'histoire de la diaspora jacobite qui, à l'instar de celle des Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes, a su faire preuve du même courage devant l'adversité, de la même détermination pour la sauvegarde de sa foi et de la même capacité d'adaptation au service du pays d'accueil. Patrick Clark Dromantin, docteur en droit et en histoire, a déjà publié un livre, « Les oies sauvages, mémoire d'une famille irlandaise réfugiée en France », publié en 1995, et de nombreux articles sur les jacobites, son domaine de recherche depuis une vingtaine d'années. Avec ce deuxième ouvrage, il devient l'historien reconnu de la diaspora jacobite. Patrick Clark-Dormantin, j'ai donc lu cette quatrième page de couverture. Nous aurons dans quelques instants le professeur Jean de Vigury qui vous remettra le prix Renaissance à l'occasion d'une grande soirée le 30 janvier prochain. S'il y a des auditeurs de Radio Courtoisie qui souhaitent participer à cette soirée organisée par le Cercle Renaissance, ils peuvent prendre contact avec le Cercle Renaissance, 138 rue de Tocqueville, Paris 17e, 01 42 27 48 22, site internet Cercle Renaissance en un seul mot, .info. Ce grand dîner, qui sera un dîner en tenue de soirée, rassemblera énormément de personnalités et également de descendants de familles jacobites, comme notamment les Clark Dromantin, les O'Kelly Farrell et bien d'autres familles. Voilà, mais Patrick Clark Dromantin, nous allons avoir dans quelques instants notre ami Jean de Vigry. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du Cercle Renaissance de vous remettre son prix littéraire?
Bien écoutez, avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'étonnement, je dois vous dire. Parce que d'abord, je pensais que la saison des prix littéraires était terminée, était révolue. Et quand j'ai appris cette nouvelle, ça a donc été ma surprise. Mais ma surprise a été encore beaucoup plus grande quand j'ai vu la liste des bénéficiaires, des lauréats précédents. J'en ai ressenti, j'ai à ce moment-là mesuré tout l'honneur qui m'était fait d'avoir été retenu, et j'en remercie M. de Rostelan et les membres du conseil d'administration du Cercle Renaissance qui ont bien voulu s'intéresser à cet ouvrage.
Alors nous avons peut-être en ligne, je ne sais pas si nous avons en ligne le professeur de Vigury. Non, pas encore. Alors, pouvez-vous rappeler, tout à l'heure j'ai lu la quatrième page de couverture, Monsieur Clark de Dromantin, pouvez-vous rappeler le contexte justement de cet exode des jacobites? Et c'est un exode considérable, on dit entre 25 et 50 000, alors que les protestants partant à la même époque vers les Pays-Bas, c'était combien, environ 200 000?
Oui. Les historiens ne sont pas tous d'accord, mais enfin disons qu'ils estiment effectivement le départ des protestants à peu près 200 000. Pour les Irlandais, enfin les Jacobites, on va dire, puisque, une parenthèse, les Jacobites n'étaient pas seulement Irlandais, ils étaient majoritairement Irlandais, voilà. Mais il y avait quelques Jacobites écossais et quelques Jacobites anglais. Il y en a eu même l'un des moindres, d'ailleurs, dont je parlerai tout à l'heure, était un Jacobite anglais. Mais statistiquement parlant, numériquement parlant, les Irlandais étaient très majoritaires.
Et c'est eux qu'on appelait les oies sauvages, c'était spécifiquement
oui,
les Irlandais.
Oui, alors c'était effectivement... Alors les oies sauvages, ah là, si vous m'amenez sur ce terrain, entre oies sauvages et Jacobites, l'oie sauvage est un terme un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'on a baptisé l'oie sauvage tous les Irlandais qui sont venus à partir du début du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, qui ont parcouru un peu les pays européens, persécutés qu'ils étaient en général, pour des raisons différentes, Cromwell dans un premier temps, et puis Jacques II dans un deuxième temps, persécutés qu'ils étaient donc par les Anglais. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur ce problème.
Alors, je crois que nous avons en ligne le professeur Jean de Viguerie. Est-ce que vous m'entendez, professeur ?
Oui, je vous entends.
Comment allez-vous, monsieur le professeur ? C'est Michel de Rostelan au micro. À côté de moi, donc, Patrick Clark de Dromantin, monsieur O'Hara, conseiller à l'ambassade d'Irlande, et monsieur Patrice O'Kelly Farrell. Vous voyez que vous êtes bien entouré, monsieur le professeur.
Oui, je vois.
Alors, je voulais vous demander quel... j'ai un prix... donc, vous allez présider cette remise du prix Renaissance le 30 janvier prochain, oui, en remettant le prix Renaissance 2008 à notre ami Patrick Clark de Dromantin. Vous avez de surcroît, indépendamment de vos titres universitaires, du fait que vous-même aviez été lauréat en son temps du prix Renaissance, vous avez également quelques liens familiaux avec les Jacobites.
Oui, mon épouse est une Auburn.
Et les Auburn sont d'une famille jacobite.
Et donc du sang jacobite.
Voilà, donc vos enfants ont du sang jacobite. Voilà. Alors, je voulais vous demander, puisque nous avons nos invités qui sont à l'écoute de ce...
Et
de
nous sommes parents, mes enfants ont du sang O'Kelly également.
Ah.
Puisque une
Saint-Gérie... Bah écoutez, je passe le micro à monsieur O'Kelly qui va tout de suite vous dire quelques mots, alors, dans ce cas-là.
Oui, s'il veut bien.
Oui, je salue le professeur de Vigry.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour. Bonjour monsieur. Effectivement, tout ceci est lié autour de Saint-Géry et de la sœur de mon ancêtre Jean-Jacques qui a épousé un Saint-Géry.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et les Saint-Géry, finalement, il n'y a eu que des filles et une fille a épousé un Auburn. Mais il y a eu trois alliances Saint-Géry avec des Irlandais, alliance O'Kelly, alliance McCarthy et alliance Auburn.
Ah, c'est ça.
Alors, je voulais vous demander, monsieur le professeur, paradoxalement, nous avons, grâce à Patrick Clark de Dromantin et le Cercle Renaissance, a profité de son ouvrage pour rappeler cet épisode très peu connu. Comment se fait-il que cette affaire des Jacobites soit si ignorée en France ?
Oui, je dirais que ce livre de monsieur Clark de Dromantin est une révélation. On connaissait bien par quelques monographies certaines figures de cette immigration jacobite. Mais nous avons maintenant, grâce à ce livre de Patrick Clark de Dromantin, un tableau d'ensemble. Nous avons toute cette émigration sous nos yeux, avec toutes ces familles, toute leur histoire, depuis leur départ d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre, jusqu'à la Révolution. On peut dire que ce livre est vraiment l'encyclopédie des Jacobites. Cette émigration est moins importante en nombre, mais elle est comparable à la protestante.
Tout à fait.
Elle se produit à la même époque. Mais alors que l'émigration protestante avait fait l'objet de nombreuses études, celle des Jacobites attendait son historien, elle l'a trouvé. Je pensais d'ailleurs à une autre émigration qui est plus proche de nous, et qui, elle, je crois, attend toujours, celle des Russes blancs.
C'est vrai.
Après la révolution de 1917, qui trouvera peut-être un jour un historien aussi bon, aussi convaincant que Patrick Clark de Dromantin.
Tout à fait, tout à fait. Alors je me retourne et vous allez pouvoir converser avec lui vers le conseiller auprès de l'ambassade d'Irlande, Monsieur O'Hara, voulez-vous dire quelques mots au professeur de Vigry ?
Oui, bien sûr. En fait, la famille O'Byrne, si j'ai raison, c'est une famille du Wicklow.
Avec, oui, c'est ça.
Ils ont défendu le Dublin pendant longtemps contre la famille Powerscourt aussi. Je connais bien le territoire de Wicklow. Moi, je voudrais dire, d'abord, je voudrais féliciter Patrick Clark de Dromantin parce que c'est un livre qui m'a enthousiasmé, franchement, parce que j'ai appris beaucoup de choses au sujet de la vie de Jacobins qu'on n'apprend pas, par exemple, à l'école en Irlande. On a quelques éléments qu'on nous enseigne en Irlande, soit à l'école ou en université. Mais en gros, il nous faut, chez nous aussi, qu'en France, un livre aussi détaillé et aussi passionnant aussi qui nous explique une partie de notre histoire.
Oui, c'est un livre passionnant, effectivement. Et ces Jacobites sont vraiment fascinants. Ils nous fascinent par l'ancienneté de leur famille. Et bien sûr, il y a quelques généalogies auxquelles on n'est pas obligé de croire, comme celle des McCarthy.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Générations. Mais il faut reconnaître que ces familles, par leur grande ancienneté, peuvent rivaliser avec les noblesses françaises chevaleresques ou même immémoriales. On est fasciné en lisant ce livre de Patrick Clark, de Dromantin. On est fasciné également par la foudroyante réussite en France de certains émigrés qui étaient partis de rien ou de presque rien. Je pense au Lynch, le Jean Lynch, marchand de Suif, et son petit-fils conseiller au Parlement de Bordeaux, celle des Mitchell également. Et je suis fasciné également, et c'est à mon avis un des chapitres les plus passionnants de l'ouvrage, je suis fasciné par l'ardeur guerrière de ces Jacobites, par leur zèle combatif, le zèle combatif de tous ces officiers jacobites engagés au service du roi de France. Ces Dillon, par exemple, qui donnent 35 officiers à l'armée royale. Les faits d'armes de ces Jacobites sont innombrables. J'ai lu avec le plus grand intérêt l'intervention dans la bataille du duc de Berwick à Neerwinden, qui se précipite dans la mêlée. Enfin, il y a le plus incroyable, et que l'auteur excelle à faire revivre, c'est l'activité débordante et multiple de la plupart de ces nobles jacobites. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant l'émigration dans leur pays d'origine, mais en France, ils sont stupéfiants de vitalité et de créativité dans tous les domaines.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu des régiments irlandais en France, sous Louis XIV, et que Jacques II Stuart était le cousin germain de Louis XIV, qui l'a accueilli en exil, en émigration en France, au château de Saint-Germain.
Oui. Il était le cousin de Louis XIV, certes, mais il n'avait pas. Il était le petit-fils d'Henri IV également, Jacques II, mais il n'avait pas le sens politique du grand-père.
Non.
Puisque, vous le savez comme moi, il s'est converti au catholicisme alors qu'il était successible à la couronne d'Angleterre. Alors c'est très respectable à titre privé, bien évidemment. En revanche, quand on est successible à la couronne d'Angleterre, c'est peut-être un peu imprudent. En plus, devenu veuf, il s'est remarié avec une princesse catholique beaucoup plus jeune que lui, Marie de Modène, qui, bien entendu, lui a donné un enfant au mois de juin 1688. Et c'est cela qui a déclenché, je dirais, le problème de la révolution, de la glorieuse révolution. C'est-à-dire que quand les Anglais ont compris que le trône d'Angleterre allait passer à un roi catholique, leur sang n'a fait qu'un tour. Ils se sont souvenus que de son premier mariage, il avait eu deux filles, dont l'aînée Marie avait épousé le statoudeur de Hollande, Guillaume d'Orange, champion du protestantisme. Les Anglais ont fait l'appel à lui. Il est arrivé avec une petite armée au mois de novembre 1688 et il a remplacé purement et simplement Beau-Papa sans problème et sans difficulté. Il a pris sa place et le malheureux Jacques II a dû fuir dans des conditions difficiles son pays et il s'est réfugié en France, effectivement, chez Louis XIV, qu'il a accueilli royalement dans le château de Saint-Germain, puisqu'à ce moment-là, le dit château était libre, puisque Louis XIV venait de se faire construire un petit pavillon de chasse du côté de Versailles, bien connu à l'heure actuelle.
Alors, un auditeur demande que nous rappelions le titre de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage, c'est « Les réfugiés jacobites dans la France du XVIIIe siècle ». Avec comme sous-titre « L'exode de toute une noblesse pour cause de religion ». Cet ouvrage est paru aux presses universitaires de Bordeaux et je veux demander à Bénédicte de bien vouloir donner l'adresse où on peut commander cet ouvrage.
Vous pouvez le commander à M. Michel Zumkir et son numéro de téléphone c'est le 01 53 10 54 07.
Oui, je précise que ce monsieur travaille au Centre interuniversitaire de documentation, boulevard Saint-Michel à Paris, et que c'est la raison pour laquelle cet ouvrage se trouve dans le circuit de l'université et non pas dans le circuit des librairies, hein, puisque c'est un ouvrage qui était imprimé par les presses universitaires de Bordeaux.
Oui, donc, cela dit, on peut le trouver dans les librairies. Simplement, en général, les libraires, à ce moment-là, vous demandent le numéro ISBN. Alors, je ne sais pas trop ce que veut dire ISBN.
Oui, c'est le numéro international d'édition.
Alors, à ce moment-là, le libraire le trouve. Hein. Ils ont, avec les moyens informatiques actuels, ça ne pose pas de difficultés. Mais ce n'est pas un grand tirage, c'est évident. Ce n'est pas des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, les librairies n'en sont pas remplies, c'est vrai.
Voilà, alors nous allons remercier le professeur Jean de Vigry. Merci d'avoir participé quelques instants à notre émission. Et nous aurons grand plaisir à vous retrouver le 30 janvier prochain. Et j'espère qu'un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie, d'ici là, également, s'inscriront à ce dîner. À ce dîner, d'ailleurs, vous signerez vous-même votre récent ouvrage, cher professeur, qui s'intitule « Les filles de lumière ». Et
oui.
Que vous avez publié il y a 4 mois.
Un peu plus. 7 mois.
Voilà.
Voilà, oui. Filles des Lumières, femmes et sociétés d'esprit en France au XVIIIe siècle.
Voilà. Et donc, nous retombons toujours dans cette période du XVIIIe siècle dont vous êtes un grand spécialiste, en particulier votre Louis XVI.
Le roi bienfaisant.
Et le roi bienfaisant. Et les auditeurs de Radio Courtoisie également ont eu le plaisir de vous voir signer lors de la fête de la Courtoisie. Et je crois que la prochaine fête de la Courtoisie, mais je n'ai pas la date exacte, sera au mois de juin. Donc voilà, vous serez certainement avisé à ce moment-là. Voilà, cher professeur, merci beaucoup de votre participation à un moment à cette émission de radio.
Merci cher ami, en tout cas.
Vous saluez pour moi, monsieur Clark de Normandie.
Voilà.
Et je vous salue également.
Et je me tourne vers monsieur le conseiller O'Hara. J'ai eu plaisir à voir que dans la documentation de l'Office du tourisme irlandais, on se remémorait cette noblesse catholique qui était venue en France. Il y a une petite allusion.
Oui.
Ça fait plaisir parce que souvent, la mémoire fiche le camp. Et ça fait plaisir que ce point que nous essayons de ressusciter aujourd'hui, vous en avez eu le souci.
En fait, c'est bien le cas. Il y a deux expositions actuellement à Dublin qui pourraient peut-être s'intéresser à vos auditeurs. Avant de mentionner ça, le professeur vient de mentionner le côté guerrier des Jacobites dans les régiments irlandais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que après la bataille de Fontenoy, et c'était les Irlandais, un régiment de Dillon qui a joué un rôle clé dans la bataille en 1745. J'ai lu que Louis XV déplorait leur excès d'intrépidité devant l'archevêque Dillon. Et Dillon était lui-même un jacobite, archevêque de Narbonne et de Toulouse et aussi, je crois, de Rouen. Et Dillon a répondu que oui, les ennemis du roi, eux aussi, s'en plaignent hautement. C'est une anecdote qui m'a plu énormément. Mais à Dublin, actuellement, d'abord, dans notre bibliothèque nationale, il y a une exposition qui s'appelle en anglais « Strangers to Citizens », c'est-à-dire des étrangers qui deviennent des citoyennes, qui raconte l'histoire de presque toutes les vagues d'émigration de l'Irlande vers la France, y compris les Jacobites. Et aussi, à l'autre côté du centre-ville, à Dublin, il y a dans notre musée national une autre exposition qui s'appelle Soldiers and Chiefs, les soldats et les chefs, qui racontent bien sûr le côté guerrier des Irlandais dans les armées de tous les autres pays de l'Europe dans le temps, depuis à peu près presque 1000 ans.
C'est magnifique. En fait, vous nous avez en tous les cas bien souligné cet aspect guerrier des Irlandais. C'est un point qui m'avait un petit peu échappé, mais...
Ici, à la bataille de Fontenoy, je reviens à ce que disait tout à l'instant M. O'Hara. Je crois pouvoir dire que si la bataille a bien tourné en faveur de la France, c'est quand même un peu grâce au régime irlandais, parce que le maréchal de Saxe, qui commandait les armées françaises, et Louis XV était là, s'adressait à Louis XV, et Louis XV demandait au maréchal de Saxe où on en était. Et le maréchal lui dit, eh bien, Sire, malheureusement, ça ne va pas très bien, mais nous allons faire donner les régiments irlandais. On a fait donner les régiments irlandais, et à ce moment-là, si vous voulez, la victoire a changé de camp. Et c'est grâce à eux, donc, que cette victoire est intervenue. Il y a d'ailleurs une très belle anecdote, me semble-t-il, à cette occasion, que l'on trouve aux archives nationales, un entretien entre le maréchal de Saxe et Louis XV. Et le maréchal de Saxe dit à un moment donné à Louis XV, qui était accompagné du dauphin, « Sire, il faut passer le pont, parce que votre vie est en danger. » Et Louis XV a cette réponse magnifique, « Monsieur le maréchal, en ce qui concerne la conduite de mes armées, je vous fais toute confiance, mais pour l'éducation de mon fils, nous resterons. » Et il est resté. Ils sont restés. Et ils en sont vécu aussi.
Alors, quelles étaient les spécialités des militaires des Irlandais? Les Écossais étaient des remarquables archers, mais les Irlandais, c'était...
Plutôt, je pense, la reine des batailles.
La reine des batailles,
l'infanterie. L'infanterie.
Alors, nous allons. Nous avons évoqué, nous avons bien mis en situation l'époque historique, les raisons de cette émigration vers la France de 25 000 à 50 000 personnes à peu près. Mais votre ouvrage, Patrick Clark de Tromentin, surtout analyse ensuite l'intégration de ces familles dans la société française. Et c'est même le principal objet de votre ouvrage. Et cet ouvrage est accompagné de statistiques précises. Et vous citez la plupart des grandes familles jacobites. Et c'est impressionnant. Et en particulier, c'est impressionnant parce que ces familles jacobites ont apporté un savoir-faire, de nombreux transferts de technologie. C'est ce qui est indiqué en page 4 de couverture que je lisais tout à l'heure. Et on va voir ces familles jacobites s'installer principalement à Bordeaux, Nantes, Rouen, etc. Et alors nous verrons tout à l'heure plus précisément avec un exemple de famille jacobite, la famille O'Kelly Farrell. Mais pouvez-vous un petit peu, Patrick Clark de Tromentin, pourquoi d'abord ces différentes villes? C'est parce que c'était des ports.
Oui, bien entendu. Ils sont débarqués dans les ports parce qu'à l'époque, le moyen de voyage, de communication, je dirais, entre pays, c'était évidemment l'eau, les navires. Par conséquent, ils ont débarqué de Dunkerque à Bayonne. Je crois qu'à Bayonne, il n'y en avait pas beaucoup, mais Dunkerque, on va dire au moins jusqu'à Bordeaux, en tout cas. On les retrouve dans tous les ports de l'Atlantique. Mais on les retrouve aussi à l'intérieur des terres. On en retrouve à Toulouse, on en retrouve en Lorraine. On en retrouve à Brive-la-Gaillarde, avec la manufacture de Thomas Leclerc. Donc, ils n'ont pas été que dans les ports. Mais il est vrai que la plupart sont quand même arrivés dans les ports de la façade atlantique, c'est bien évident. Je voudrais revenir quand même, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, puis on a glissé, sur les raisons, je dirais, du fait que cet épisode des Jacobites est inconnu. Alors, le professeur Cullen, professeur à Trinity College, à Dublin, a une explication là-dessus. Il dit que cette migration a été occultée par la grande migration du 19e siècle, une migration économique, où les Irlandais sont partis par centaines de milliers. Alors, effectivement, c'est tout à fait vrai. Et quand on parle d'immigration irlandaise, immédiatement, l'interlocuteur vous parle du 19e siècle. Et aucun ne vous parle ni de l'époque de Cromwell, ni de l'époque de Jacques II. Il y a peut-être une autre raison aussi, c'est qu'il s'agissait de catholiques et il s'agissait, je dirais, d'élites insulaires. Or, les catholiques ont peut-être, à tort ou à raison, je ne sais pas, la réputation d'être plutôt du côté, non pas des victimes, mais du côté de ceux qui pratiquent la persécution. Or, il se trouve que là, c'est l'inverse. Ils sont persécutés et ils sont victimes. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons qui a fait que jusqu'à présent, l'historiographie française ne s'est pas intéressée à cette migration.
Alors, pour nos amis auditeurs qui ont pris cette émission en cours de route, et c'est le cas en particulier de quelqu'un qui nous téléphone de Bretagne, pourquoi ce terme jacobite? Il s'agissait des partisans de Jacques de Stuart, qui s'opposait aux Williamites, c'est-à-dire les partisans de Guillaume d'Orange. William, Guillaume, en anglais, c'est la même chose. Donc les Jacobites, ce sont les partisans de Jacques II Stuart. C'est l'émigration de toute une noblesse majoritairement catholique, très largement majoritairement catholique, vers la France, et à la fin du XVIIe siècle, et ça a concerné plus de 25 000 personnes. C'est une immigration qui est très peu connue, et il est évident que dans cette période actuelle, où il y a la perte du sens du sacré très largement, et la pipolisation, je dirais, pour ne plus utiliser un terme que je nie, cette évocation de dimension du sacré et de la religion, se battent pour sa foi et pour le roi, cela méritait, me semble-t-il, de faire l'objet d'une émission de Radio Courtoisie. Mais je vais demander à Bénédicte de lire les premiers messages pour nos auditeurs.
Oui, d'abord, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rosteland. Ses invités sont M. Clark de Dromantin, docteur en histoire, auteur de l'ouvrage « Les réfugiés jacobites dans la France du XVIIIe siècle ». Ce livre, vous pouvez le trouver au Centre interuniversitaire de documentation, boulevard Saint-Michel. Vous vous adressez à M. Michel Zumkir au 01 53 10 54 07.
Je précise que cet ouvrage coûte 55 euros. C'est un ouvrage très important et volumineux qui compte 524 pages.
Nous avons aussi comme invité M. O'Hara, conseiller à l'ambassade d'Irlande, et M. Patrick O'Kelly Farrell, descendant d'une famille jacobite installée en France à la fin du XVIIIe siècle. Premier message d'une auditrice. Jacques II avait des convictions profondes qui passaient avant le sens politique, ce qui n'est pas le cas de nos gouvernants actuels. Un auditeur de Saint-Germain-en-Laye. Jacques II Stuart est enterré à Saint-Germain-en-Laye, où un hommage lui était annuellement rendu par des joueurs de cornemuse en grande tenue. Cette coutume perdure-t-elle ? Et un auditeur, mon père avait pour ami le colonel Oneil, mort au combat pour la France pendant la guerre d'Algérie.
Alors, quelques réponses à ces premiers messages qui arrivent. Monsieur O'Hara, vous qui représentez et nous en réjouissez cette République irlandaise, quelles sont vos réactions sur ces premiers messages?
Peut-être la question au sujet de Saint-Germain-en-Laye et les traditions là. Moi, j'ai habité à Saint-Germain-en-Laye il y a une quinzaine d'années et je me souviens d'un colloque dans les années 90 au sujet des Jacobites. Et je me souviens, j'ai appris, et ça m'a surpris, que quand Jacques II est arrivé à Saint-Germain-en-Laye, il y avait apparemment dans les rues de Saint-Germain-en-Laye 2000 Irlandais qui sont restés longtemps. Et on nous a dit, et c'est peut-être Patrick Clark de Dromontin pourrait le confirmer, qu'en fait, à l'époque, il y avait tout un étage du château dans lequel habitait la famille O'Brien.
Alors, vous me donnez l'occasion, effectivement, de préciser quelque chose. Mon travail concerne les jacobites, certes, c'est-à-dire donc les partisans de Jacques II. Alors, on a posé une question tout à l'heure pour savoir pourquoi il s'appelle jacobite. C'est Jacobus, en latin. Jacobus, d'où jacobite. Donc, pourquoi... alors, je ne sais plus là, ce que je voulais vous dire, mais ça va revenir.
Les 2000 Irlandais,
voilà, les Irlandais
la famille
voilà.
O'Brien. Oui.
J'ai donc travaillé, moi, sur l'ensemble de ces Irlandais, de ces Jacobites, qui sont venus en France, et alors qu'à Saint-Germain étaient concentrés les personnels de la cour de Saint-Germain, c'est-à-dire les proches du roi, alors que les miens n'étaient pas du tout, enfin les miens, les personnes auxquelles je me suis intéressé, n'étaient pas des proches du monarque. Ils étaient tout à fait catholiques, partisans de Jacques II, ils le disent dans les lettres de naturalité, ils le disent dans les lettres de reconnaissance de noblesse, mais ils n'étaient pas proches de la cour, tout au moins pour la plupart, à l'exception par exemple de l'archevêque de Narbonne comme le monseigneur Dillon. Donc là, il faut le savoir. Et les travaux concernant les jacobites proches de la cour sont des travaux qui ont été réalisés par Madame Nathalie Généroufia, qui vient de publier au Centre de la Défense nationale, enfin au Service historique de la Défense, pour rappeler par son nom, qui vient de publier un livre sur le Grand Exil et qui traite de ces jacobites à Saint-Germain-en-Laye. Et il y a également les travaux du professeur Korp sur la famille royale.
Alors nous allons peut-être, avant Patrick Lardon-Mantin, que nous évoquions les différents corps de métier, les différentes industries occupées par les familles jacobites et qui sont largement détaillées dans votre ouvrage, je vais peut-être me retourner vers M. Patrice O'Kelly-Farrell pour vous demander, si vous le voulez bien, d'évoquer ce qu'a été sur... il y a combien de générations que votre famille est en France ?
Alors... ma famille, l'ancêtre des O'Kelly-Farrell qui vivent en France, Denis O'Kelly, s'est établi en France en 1756. Alors je peux raconter un petit peu son histoire. Il appartenait à une famille qui était très attachée aux Stuarts et à la religion catholique. Et son grand-oncle, Charles O'Kelly, était un des chefs de la résistance jacobite pendant la guerre de 1689-1691. Il a d'ailleurs laissé le seul récit du côté jacobite de cette guerre. Le Macariae Exidium, écrit en latin et en langage codé en plus. Et donc, son petit-neveu, Denis, a d'abord servi en Espagne, puisqu'il y avait aussi des régiments irlandais dans l'armée espagnole. Ils se sont distingués, pas à Fontenoy, mais à Naples d'ailleurs. Et étant en Espagne, capitaine donc dans le régiment Ultonia, il a appris que son oncle O'Farrell était mort et lui laissait une fortune importante. Donc il est revenu en Irlande. Et là, il a décidé d'émigrer en France, non pas en Espagne, mais en France. C'était pas une émigration économique, puisqu'il avait une fortune importante, c'était vraiment une émigration pour raison religieuse. Donc il est arrivé en France du côté de Toulouse. Son acte de naturalité précise bien que c'était pour rester catholique qu'il était venu en France. Les épisodes... Il est mort malheureusement dès 1761, laissant son fils et sa fille orphelins, à l'âge l'un de 12 ans et l'autre de 10 ans. Alors c'est là qu'on voit bien la solidarité familiale, puisque ces orphelins ont été finalement accueillis par des parents irlandais, soit établis en France, soit des parents restés en Irlande. On voit avec la correspondance qu'on s'inquiète, les parents irlandais s'inquiètent du sort des orphelins qui se trouvaient en France. Alors ils ont été bien aidés par le fait que leurs parents, Monseigneur Dillon, leur cousin, était donc archevêque d'abord de Toulouse, puis de Narbonne.
Dillon, D-I-2-L-O-N.
D-I-2-L-O-N, oui.
Parce que et nous évoquons tout à l'heure les grandes familles jacobites, précisément, dont les Dillon.
Voilà, donc c'était un illustre, un des plus illustres jacobites.
De même que les Auburn évoqués tout à l'heure, c'est O-B-Y-R-N-E.
Oui, et on voit dans la correspondance de Jean-Jacques, donc il était en relation suivie avec ce cousin ou cet oncle. Et d'ailleurs, ça l'a beaucoup aidé dans ses difficultés diverses, juridiques et fiscales. Donc, il y avait une solidarité familiale certaine. Il y a une volonté d'intégration de leur part, puisque ils ont donc acheté des propriétés en France. Ils ont réussi à transférer 700 000 livres, ce qui prouve que les relations économiques existaient. Et donc... il a voulu s'intégrer, il a demandé que sa noblesse soit confirmée, il a fait les démarches pour être présenté à la cour, il a réussi, ce qui lui a permis de faire un beau mariage. Il a épousé une demoiselle de Galard-Béarn, qui le mettait en relation avec la famille Maurepas, donc c'était vraiment une introduction formidable, et ça lui a permis, l'ENA n'existait pas à l'époque, donc pour devenir diplomate, c'était la voie voulue, donc ça lui a permis de se faire nommer ministre plénipotentiaire de France auprès du duc de Deux-Ponts d'abord et ensuite de l'électeur de Mayence. Bon. Donc il a eu une carrière diplomatique, dont on ne parlera pas ici parce que ça concerne les relations franco-allemandes, et jusqu'à la Révolution, où là, malheureusement, on n'a pas voulu choisir entre les ultras d'une part, le prince de Condé, et le gouvernement révolutionnaire. Donc il a voulu rester fidèle au roi. Après Varennes, c'était plus possible, donc il est revenu en Irlande. Alors là, il y a un point de sa biographie sur lequel je m'interroge. Sa femme et sa famille étaient à Mayence, lui en Irlande. Il est revenu quand même en France en 1792, octobre 1792, au risque de se faire guillotiner.
Dangereux.
C'était dangereux, oui. Enfin, ça prouve qu'il était bien intégré et qu'il n'a pas voulu rester en Irlande. Donc il a vécu tranquillement en France, traversé la Révolution... jusqu'au 18 Fructidor, où là, on a découvert qu'il était émigré. Et donc, il n'a pas pu rester en France, bien qu'il ait été protégé par les gens du Sud-Ouest. Et donc, il est mort en émigration à Toulouse, à Huesca. Et ses biens ont été confisqués. Donc, pour conclure, il était venu en Irlande, sa famille était venue en Irlande pour préserver sa foi catholique et aussi préserver sa fortune. Tous ses biens ont été confisqués et il a connu les persécutions religieuses. Donc c'est une sorte de paradoxe.
Et par la suite, la famille au calife Harel
est restée, a vécu, s'est développée et compte de nombreux représentants en France. A vécu,
est-ce qu'il était dans une activité économique alors, ou
plutôt militaire. Non, plutôt militaire. Dire que, voilà, les O'Kelly étaient plutôt servaient plutôt dans l'armée.
Alors je me retourne vers Patrick Clark de Dromantin. Pouvez-vous, nous avons évoqué tout à l'heure les lieux d'implantation, mais peut-être faudrait-il le développer un petit peu. Pouvez-vous également développer les métiers les...
Oui, tout à fait. Alors effectivement, vous avez fait allusion tout à l'heure au transfert de technologie. Alors là, il faut savoir qu'ils ont effectivement beaucoup apporté à la France et qu'ils avaient, c'est peut-être un peu étonnant, une très bonne connaissance de la technologie britannique. Alors on les trouve par exemple dans les mines de plomb. Les mines de plomb en Bretagne, notamment à Polawen, autour du chevalier Darcy, qui était un Irlandais, bien entendu, un jacobite, et qui est un monsieur qui était un savant, qui a été membre de l'Académie royale des sciences, qui a été un spécialiste de la balistique et qui a dirigé d'une main de maître les mines de Polawen, donc, qui étaient des mines de plomb, et qui employait jusqu'à 650 ou 700 salariés, ce qui, au XVIIIe siècle, était tout à fait important. Et dans ces mines de plomb, il a pu introduire une technologie typiquement britannique, qui était l'utilisation du four à réverbère, qui permettait de dissocier, sans dommage pour les différents matériaux, pour les différents minerais, de dissocier donc le plomb de tel autre ou tel autre minerai. Par conséquent, c'était tout à fait intéressant, et tellement que tous les esprits éclairés de l'époque se rendaient aux mines de Polawen pour venir voir un peu comment se passait. Alors on constate qu'on y trouve Minier de Montilly, l'intendant de Bretagne, Casse de la Boffe, le duc de Chartres, le duc de la Rochefoucauld. Tout ce monde-là vient voir. Et on constate également que de nombreux associés du chevalier Darcy sont des membres de la noblesse bretonne, le chevalier de guerre, la comtesse de Montclair, le comte de Blangy, le baron de Frangin, pour ne citer que quelques-uns. Et ça me permet d'insister sur un point qui n'est pas très connu. Ces jacobites ont eu une influence sur le second ordre français, sur la noblesse. Vous savez que cette noblesse a la réputation de ne pas du tout s'intéresser aux activités économiques du royaume. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Sous l'influence des jacobites, tout au moins en partie, un certain nombre de membres de la noblesse française se sont intéressés à l'industrie et ont investi. Alors, dans les mines, c'est l'exemple que je viens de donner, mais dans bien d'autres domaines. On assiste donc à une alliance entre noblesse irlandaise et noblesse française pour participer aux activités économiques du royaume. Autrement dit, ce que les rois de France n'avaient jamais pu obtenir malgré un grand nombre d'ordonnances, puisque souvent les rois de France ont demandé au second ordre, aux représentants de la noblesse, de s'intéresser à l'économie, à l'industrie, au commerce, au grand commerce maritime, et les rois de France n'ont jamais eu beaucoup de succès. Or, finalement, c'est les Irlandais qui ont obtenu ce succès, puisque on constate de nombreuses alliances entre des industriels, on disait à l'époque, des manufacturiers irlandais jacobites, et des manufacturiers français. Un autre exemple très, très connu, par exemple, c'est celui de, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, du manufacturier de Brive, c'est-à-dire Leclerc, qui s'est associé avec le duc de la Rochefoucauld.
Alors, Leclerc, L-E, plus loin, C-L-E-R-E, sans accent sans sur accent. Le E, bien voilà. Évidemment. Et d'ailleurs, le baron Leclerc sera l'un des intervenants lors du dîner de remise du prix Renaissance le 30 janvier prochain, dont la conclusion sera tirée par le professeur Yves-Marie Bercé, dont nous nous réjouissons d'apprendre qu'il vient d'être élu à l'Institut au titre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mais je vous laisse poursuivre, Patrick Clark de Dromantin, en particulier sur ces activités économiques ou manufacturières des jacobites.
Alors, d'autres activités, toujours dans les mines, ce sont encore des mines de plomb et de cuivre en Bourgogne et en Alsace. Alors là, c'est caractéristique parce que c'est une association entre des Irlandais, des Écossais et des Anglais, tous jacobites, et qui s'associent avec le baron d'Antenay pour faire une véritable synergie, qui était un noble français, pour faire une véritable synergie dans ces mines de plomb et de cuivre. On trouve également des mines de plomb dans le sud-est, du côté de la garde Fresnay, avec Martin O'Connor, qui lui s'associe avec un autre aristocrate français, qui est Jean Daguet, et qui là aussi, pendant 20 ans, apporte aux Provençaux eh bien, le bienfait des technologies britanniques. En ce qui concerne d'autres activités, on peut citer les manufactures à feu continu, c'est-à-dire les faïenceries et les verreries, pour lesquelles, là encore, les Jacobites ont apporté des novations. Alors, il y a un exemple fameux, c'est celui de Mitchell à Bordeaux. Mitchell débarque à Bordeaux, il n'a pas le sou, ça se voit avec son contrat de mariage, il n'y a rien dedans, sa femme, je crois, a 80 livres de dos. Et lui, il dit qu'il a l'exercice de son métier. Il est charpentier de barrique. Vous voyez que c'est sûrement un métier très respectable, mais qui ne doit pas permettre de faire fortune. Eh bien, il arrive quand même petit à petit à acheter des bouts de terrain autour de Bordeaux. Il monte une verrerie et au bout de quelques années, il est capable de produire 300 000 bouteilles. Ce qui est fantastique, si vous voulez. Alors, des bouteilles artisanales, bien entendu. Hein, mais n'empêche qu'il les fabrique. Et grâce à ça, il devient l'un des grands manufacturiers du Sud-Ouest. Donc, il y a là une réussite tout à fait remarquable. On trouve également dans les faïenceries, alors là, c'est plutôt à Rouen, avec la famille Garouet, et William Sturgeon, qui est un des grands faïenciers de Rouen, et qui lui aussi s'associe avec un Simon de Suzet, qui est un représentant de la noblesse française. Donc vous voyez plusieurs activités économiques, mais il y en a encore d'autres. Il y en a une peut-être qui est plus importante, la plus importante de toutes, c'est l'industrie textile. Alors l'industrie textile, là, c'est un jacobite anglais. Je vous ai dit que c'était rare, mais il y en a. Et la France lui doit beaucoup, c'est Jean Holker, John Holker. Alors John Holker, c'est une histoire fabuleuse. C'est un monsieur qui est un jacobite donc anglais, catholique. Lorsqu'il y a la tentative de restauration des Stuarts en 1745 et qui se termine mal à Culloden, John Holker, qui est à ce moment-là travaille à Manchester dans le textile, se précipite pour aller à Culloden et soutenir le petit-fils de Jacques II. Ça se passe mal, ils sont vaincus, ils n'ont jamais eu de chance les Jacobites, enfin les Stuartistes. Et ça se passe mal, il est prisonnier, il est emmené à Londres. Il s'évade, il fait bien parce que je crois que son avenir était compromis. Il se réfugie en France, il entre dans un régiment comme officier dans un régiment écossais au service de la France. Il y passe quelques années et là, un phénomène que je n'ai pas pu bien cerner, il rencontre un inspecteur des manufactures, un dénommé Morel, à Rouen, et il lui explique ce qu'il sait en matière de textile. Cet inspecteur des manufactures comprend que ce monsieur a des connaissances tout à fait intéressantes et il provoque une entrevue avec le ministre Truden. Et Truden dit « Mais monsieur, moi je m'occupe de vous, je vais vous aider à monter une manufacture de textile façon Angleterre à Rouen ». Et effectivement, il quitte donc l'armée, il monte cette manufacture qui devient un véritable modèle. Il se répand à travers toutes les manufactures de France en matière de textile pour apporter toutes ses compétences et toutes ses connaissances. Il devient inspecteur général des manufactures. Enfin, si vous voulez, il a encore une réussite extraordinaire. Et il faut dire que la France devrait lui tresser des arcs de triomphe. Parce que voilà un monsieur qui a beaucoup apporté et je crois savoir qu'il a un obscur... Square à Rouen, alors qu'il mériterait avoir une avenue, je dirais, parce que la France lui doit beaucoup, car c'est lui qui a introduit le machinisme en France. Et il l'a introduit au péril de sa vie, car il s'est livré, ainsi que son fils, d'ailleurs, à des expéditions de contre-espionnage en Angleterre. Et il est évident que s'il avait été découvert, je pense que je n'aurais pas donné cher de sa vie. Par conséquent, il a fait ça avec beaucoup de courage, ce qui n'empêchait pas, d'ailleurs, d'être très préoccupé par ses propres intérêts. Il ne croyait pas qu'il était simplement... un mécène, il a pas travaillé gratuitement, il a même fait une chose tout à fait originale qui frappe parce qu'on n'a pas idée que ça puisse être possible. Il s'était préoccupé d'avoir une retraite, il avait même demandé une pension de réversion pour son épouse. Autrement dit, il était en avance. Manifestement.
Alors, je vais demander peut-être à Bénédicte de lire quelques messages.
Oui, un auditeur, y avait-il des Irlandais aux forges de Salles en Centre-Bretagne? Un autre éditeur, bonne émission, technologie, mot typiquement anglais qui correspond à technique en français. Un auditeur, pouvez-vous parler de la famille Mater Flint, dont une fille a été l'épouse de Rivarol?
Alors pour cette dernière question, je réponds que je ne peux pas, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la connaître. Je veux dire à ce sujet-là que je ne prétends absolument pas être exhaustif dans mon travail. J'ai travaillé sur un certain nombre de familles. Je suis intimement persuadé, non seulement persuadé, mais j'ai déjà constaté, depuis que j'ai publié ce livre, depuis 2005, qu'il y a des gens qui se sont manifestés et dont je n'avais jamais entendu parler, bien à tort sûrement, et c'est le cas de cette famille. Il en va de même d'ailleurs pour la question sur la Bretagne, salle de Bretagne. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre parce que je n'ai pas rencontré cette localité dans mes recherches. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu les Jacobites. Hein. Je m'empresse de le dire.
Alors je vais peut-être demander à Bénédicte de lire d'autres messages. Tenez, voici encore deux autres messages qui viennent d'arriver.
Nous descendons, une auditrice, nous descendons d'un certain Walsh de Valois, baptisé à Saint-Malo en 1740. Est-ce que c'est un Irlandais et peut-il avoir fait partie de cette immigration ? Un autre auditeur, ce n'est pas exactement le sujet, mais puisqu'il y a des représentants irlandais, peuvent-ils nous parler des Irlandais réduits en esclavage par les Anglais et déportés dans des villes des Caraïbes et aux États-Unis ? Deuxièmement, on nous parle de la santé de l'économie irlandaise. Or, l'indice boursier a perdu 26% en 2007. Le CAC est plus 1,3.
Alors, Walsh ?
Alors, en ce qui concerne la famille Walsh, très probablement, puisque, d'après ce que dit cet auditeur, c'est à Saint-Malo. Or, il y avait c'est bien Saint-Malo hein, dont il parle, si mes souvenirs sont bons.
Saint-Malo.
Il y avait des Walsh, effectivement, ouais, Saint-Malo. Ils ont débarqué à Saint-Malo. Après, ils ont migré vers Nantes. Mais la famille Walsh est une des grandes familles de Jacobites et une des familles, je dirais, les plus industrieuses. Ce sont des gens qui ont fort bien réussi de façon, je dirais, quasiment inespérée. Ils sont arrivés avec, je pense, peu de moyens, relativement peu de moyens en tout cas, mais ils ont eu un développement absolument considérable puisque ils ont fini par acheter le château de Serran. Alors pour ceux qui connaissent à côté d'Anjou le château de Serran, c'est un monument absolument colossal et ils ont acheté ça, tenez-vous bien, 800 000 livres. Alors pour vous situer les choses, 800 000 livres, dans la région de Bordeaux à la même époque, avec 100 000 livres, on achetait une propriété viticole de 250 hectares. Pas les premières, les meilleurs termes, enfin quand même. Alors 800 000 livres, vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand Antoine Walsh, qui fait partie de cette famille à Nantes, épouse une demoiselle O'Shill, eh bien la demoiselle O'Shill apporte, fille également d'un immigré jacobite, apporte 100 000 livres de dot à son mari, et lui en apporte 350 000. Alors, je ne dis pas que tous les mariages sont aussi reluisants sur le plan financier. En fait, les mariages entre les Français et les Jacobites, ou tout simplement entre Irlandais ou Jacobites, sont des mariages qui, sur le plan social, sont très harmonieux, mais avec des grandes différences en ce qui concerne le plan financier. C'est-à-dire qu'il y a des mariages modestes, comme Mitchell, dont je parlais tout à l'heure, alors vraiment très modeste. Et puis, il y a des mariages avec des revenus tout à fait corrects. Et puis, il y a quelquefois que des mariages avec des sommes considérables. Mais la moyenne est quand même importante, puisque j'ai fait une petite étude entre Bordeaux et Nantes. Et la moyenne, si vous voulez, des apports dans les contrats de mariage jacobites se situe à 75 000 euros à Bordeaux et 98 000 livres à Nantes. Donc on voit que, comme pour une moyenne, c'est quand même très élevé.
Monsieur Warren, je crois qu'il y avait une question.
Oui, en fait, je n'en suis pas expert au sujet des îles Caraïbes, mais c'est vrai, dans les îles Caraïbes et même dans les îles de l'océan Pacifique, il existe des îles avec des gens maintenant, avec des yeux bleus, des cheveux roux qui datent de cette période dont votre auditeur a parlé. Pour la famille Walsh, une précision, parce que la personne qui a posé la question veut faire de la recherche, je crois qu'il faut étudier la famille Walsh, mais aussi, ça c'est leur nom en anglais, c'est leur nom anglicisé. Leur nom en irlandais n'a rien à voir avec le mot Walsh, et c'est Brannock, et ça s'écrit Brannach. Et je le mentionne parce que c'est pas évident si quelqu'un veut se lancer dans une grande recherche.
En effet, c'est un peu différent. Alors, une petite anecdote pour les Walsh. Il y a eu des Walsh à Bordeaux aussi, mais le nom a été transformé par les scribes de l'époque au XVIIIe siècle. Et j'ai eu du mal à les reconnaître dans un premier temps parce que les Walsh étaient devenus les Wales, O Z-U-E-I-2-L-E-S. Alors, quand j'ai, au moment de la guerre de 7 ans, 1756, Louis XV a demandé l'expulsion de tous les Anglais, Écossais et Irlandais, et l'intendant de Bordeaux a fait la liste de tous ces gens-là, et j'ai vu apparaître ces Welsh. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? D'où sortent-ils? De qui s'agit-il? Et puis, par le nom des épouses, et j'ai pu me constater, tout d'un coup, ça a été la révélation, je me suis dit, mais ce sont les Welsh, tout simplement. Alors, il faut reconnaître que ça ne saute pas aux yeux.
Alors, Bénédicte, un petit rappel sur cette émission.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostolan. Ses invités sont M. Clark de Dromantin, docteur en histoire, auteur de l'ouvrage « Les réfugiés jacobites dans la France du XVIIIe siècle » que vous pouvez trouver au Centre interuniversitaire de documentation Boulevard Saint-Michel auprès de Michel Zumkir. Le téléphone est le 01 53 10 54 07. Et le livre coûte 55 euros. Nous avons comme invité aussi M. O'Hara, conseiller à l'ambassade d'Irlande, et M. Patrick O'Kelly Farrell, descendant d'une famille jacobite installée en France à la fin du XVIIIe siècle.
Alors voici quelques messages.
Une auditrice, on vient de dire que le roi de France avait souvent demandé à la noblesse de s'intéresser à des activités économiques et qui n'avait eu aucun succès. C'est que, sous l'Ancien Régime, toute activité mercantile était déshonorante et que l'honneur passait bien avant l'argent.
Pas tout à fait.
Une auditrice. Monsieur, pouvez-vous nous parler des liens très forts et de leur origine entre la Corse et l'Irlande? Et un auditeur. Les Irlandais ne sont pas britanniques.
Ah, on va peut-être laisser M. O'Hara répondre sur cette dernière question.
C'est sûrement plus compétent que moi.
En fait, c'est vrai, nous ne sommes pas britanniques, surtout depuis notre indépendance. Sur la Corse, en fait, au sujet de la Corse et l'Irlande, il y a quelques liens. Il y a une lienne qui me vient actuellement, c'est une pièce de théâtre par un Irlandais qui s'appelait Boussico. C'est un drôle de nom pour un Irlandais. C'est une pièce de théâtre du 19e siècle qui s'appelait The Corsican Brothers, les frères Corse. Et apparemment, dans le temps, c'était la pièce de théâtre préférée de la reine Victoria. Et il s'agissait de deux frères qui voulaient perfectionner, disons, leur avenir en Corse. Mais en fait, c'était mis en place en Corse parce que si Boussico a osé écrire au sujet de l'Irlande et le nationalisme en Irlande, ça aurait été censurisé. Et donc, c'est un peu drôle parce que la reine Victoria n'était pas au courant qu'en fait, il s'agissait de notre lutte pour notre indépendance dans le 19e siècle.
Oui, je voudrais répondre à la question concernant la noblesse et les activités économiques. Il y a souvent des confusions dans ce domaine-là. Ce qui était interdit à la noblesse, c'était l'exercice de métiers comme, dans le commerce, le métier de détail. Mais par exemple, le grand commerce maritime ne leur a jamais été interdit. Et au contraire, dès Louis XI, on assiste à des ordonnances royales pour inciter les personnes du second ordre à s'intéresser, notamment au grand commerce maritime, voire aux activités industrielles. Ce qui était, encore une fois, pas possible, ce qui était, on disait, dérogeant, puisque c'était le terme, la dérogeance, ce qui était interdit, c'était donc des activités de détail. On ne pouvait pas faire de commerce de détail, mais il n'était pas du tout interdit de se lancer dans le grand commerce maritime. Mais c'est vrai que c'est une idée qui est très ancrée, ça, dans l'histoire française. On croit qu'il ne pouvait exercer aucune activité économique. Si, ils pouvaient exercer. Et justement, au XVIIIe siècle, sous l'impulsion des jacobites, ils ont commencé très sérieusement, je l'ai dit tout à l'heure, par des associations et une synergie entre les différentes familles, ils ont commencé à avoir des activités tout à fait intéressantes pour l'économie. Alors, cela dit, cela ne représentait qu'une partie de la noblesse, bien entendu, car il fallait avoir quelques moyens pour faire des investissements financiers, des choses comme ça. Mais il ne faut pas croire que c'était une catégorie oisive et qui ne faisait rien. Ils avaient ce problème de la dérogeance que n'avaient pas d'ailleurs les jacobites, puisque dans le monde, alors je ne sais plus comment dire, dans le monde d'au-delà la Manche, eh bien, la notion d'érogence était une notion qui n'existait pas. Et Voltaire, là-dessus, avait fait des développements, vous le savez, comme moi.
Oui, alors, oui, je voyais notamment dans l'ouvrage l'évocation du commerce triangulaire.
Oui.
Est-ce quelles sont ces familles qui...
Oui, alors, il y en a eu un certain nombre, les Walsh notamment, mais ils n'ont pas été les seuls. Alors, effectivement, ils se sont intéressés au commerce maritime d'une façon générale. On peut diviser le commerce maritime en trois grandes catégories. La course, au sens des corsaires. Hein,
ceux qui disposent d'une lettre de course.
Ceux qui disposent d'une lettre de commission, une commission du roi, et qui permet d'attaquer les navires marchands ennemis pour aider, si j'ose dire, la marine royale, la marine militaire, à mettre en difficulté l'économie de l'ennemi.
Alors, quelques noms, parce que c'est toujours intéressant de...
Alors, il y a des Walsh, là aussi, si vous voulez. On trouve des Walsh dans les corsaires, parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment, peut-être que la ville, le port qui a eu le plus de corsaires, c'est Saint-Malo.
Oui.
Donc, on trouve là de nombreuses familles qui ont donné dans la course. Et le deuxième volet, c'est l'activité, le grand commerce maritime classique, c'est-à-dire les relations entre les différents pays d'Europe et les différentes... L'Amérique, je dirais, les îles américaines. Et puis d'autre part, même l'océan Indien, c'est-à-dire l'île Bourbon, plus communément appelée île de la Réunion, et l'île de France, plus communément appelée l'île Maurice. Et même, on voit des comptoirs jusqu'en Chine et en Cochinchine. Autrement dit, il y a un certain nombre de ces jacobites qui se sont intéressés à ces routes lointaines, et je pense à la famille Aufriel, par exemple, qui a ouvert des voies maritimes vers la Cochinchine. Et puis la dernière activité, donc, c'est effectivement le commerce des Noirs. Alors, c'est assez consternant, mais enfin, ils n'étaient pas les seuls. Hein. C'était à l'époque, ça ne troublait pas beaucoup de gens. C'est incompréhensible pour nous, c'est bien évident, même au XXIe siècle. Mais c'était ainsi, et les Irlandais n'ont pas été les derniers, effectivement, à s'intéresser au commerce maritime, au commerce
Tous ces grands ports, d'ailleurs, Bordeaux, Nantes, etc.
Tout à fait. Alors, Nantes étant le premier port, Nantes, si vous voulez, est en tête du commerce du bois d'ébène, c'est évident, puisqu'il y a eu un historien qui a fait deux volumes sur les grandes expéditions négrières en France. Il y a deux volumes, vous en avez un, c'est Nantes, et le deuxième, un peu plus petit, c'est tous les autres ports. Alors, c'est vous dire qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir le livre. En voyant sur l'étagère les deux volumes, on est fixé. Mais Bordeaux était en train de devenir un port extrêmement actif dans ce domaine-là. Et c'est la Révolution qui a arrêté la chose, qui a arrêté le phénomène. Mais il est vrai qu'à la fin, dans les dernières années, avant le XVIIIe siècle, le commerce africain, le commerce des Noirs, prenait une ampleur importante à Bordeaux. Mais il a été évidemment stoppé radicalement, d'abord par la Révolution, et puis par l'évolution des esprits, puisque vous le savez qu'à ce moment-là, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont fini par se poser des questions en se disant si ce commerce était bien légitime.
Alors, dans d'autres domaines que le commerce ou les activités industrieuses, l'insertion des jacobites dans la haute administration française, voire même dans l'armée ou dans l'Église catholique.
Oui.
Est-ce que vous avez des noms
Il y a des noms, oui, tout à fait. On peut mettre, en ce qui concerne les armées, d'ailleurs, je me suis contenté, si vous voulez, des généraux, enfin des officiers généraux. Alors d'abord, on peut dire qu'il y a eu quatre maréchaux de France issus de la diaspora jacobite. Alors ces quatre maréchaux de France sont bien entendu Berwick, O'Brien et Fitzjames. Et le dernier, qui n'est pas très connu, bien qu'il soit très important et plus proche de nous, c'est tout simplement Patrice de MacMahon, maréchal de France et deuxième président de la Troisième République. Il était petit-fils d'un immigré, le médecin, son grand-père était médecin. Et c'est une très belle histoire, d'ailleurs, l'histoire de MacMahon, parce que ce MacMahon est médecin, et lui s'installe en Bourgogne. Et puis là, il est lié d'amitié avec un ménage dont le monsieur est beaucoup plus âgé que la dame. Il soigne le monsieur, il le soigne tellement bien que le monsieur en meurt. Enfin, je ne dis pas que c'est lui qui l'a tué, faites pas dire ça. Mais je dis simplement que, comme il était plus âgé, bien, ça s'est mal fini. Et le docteur MacMahon a évidemment consolé la veuve éplorée à tel point qu'il l'a épousée. Et c'est comme ça que un château de la région de Bourgogne, dont le nom m'échappe à l'heure actuelle, est devenu la propriété de la famille MacMahon et qui est toujours. Le nom m'échappe, le château en question. Donc voilà un exemple. Alors voilà donc, si vous voulez, les quatre familles jacobites qui ont,
Qui
ont donné des maréchaux de France. Mais vous avez aussi 23 lieutenants généraux, 13 maréchaux de camp. Tout à l'heure, on nous rappelait que la famille Dillon avait eu 35 officiers au service de la France. Effectivement, les Dillon ont beaucoup donné. Dans la haute administration, alors bien entendu, je ne parle pas des légions de colonels et d'officiers et de soldats et qui se sont battus sous l'épi du drapeau Fleur d'Elysée, mais il y en a eu une quantité considérable, puisque j'ai estimé, si vous voulez, sur ces 50 000 jacobites qui sont arrivés en France, à peu près la moitié se sont engagés dans les activités militaires. Alors, dès la première génération, puis les générations suivantes, parce que, bien entendu, souvent, des fils d'officiers devenaient eux-mêmes officiers. Et il y a d'ailleurs dans mon ouvrage une lettre très intéressante, dont je conseille la lecture, qui est la lettre d'un officier irlandais au service de la France qui a connu les événements de Limerick, de la Boyne, etc., et qui raconte à son fils tous ses malheurs, et il les raconte dans les termes du XVIIIe siècle, c'est-à-dire même quand il s'agit de choses un peu osées, eh bien il le dit tellement bien que c'est absolument extraordinaire. Alors il y a là une correspondance tout à fait intéressante et qui est peu connue, pratiquement inédite. D'autres activités, alors dans la haute administration, eh bien, bien entendu, on trouve par exemple des gouverneurs des Indes, en la personne du fameux Lally Tollendal, le malheureux qui a été exécuté sur la place de Grève, à mon avis tout à fait injustement, Thomas Conway qui a été également gouverneur des Indes, on trouve Pierre-André O'Egherty qui a été gouverneur, si mes souvenirs sont bons, de l'île Bourbon. Et puis, on trouve encore des ambassadeurs, par exemple Talbot, ambassadeur en Autriche, Audunte, ambassadeur au Portugal, et M. Jean-Jacques O'Kelly-Farrell, donc, ministre plénipotentiaire auprès de l'électeur de Mayence.
Si on peut dire un mot là-dessus, justement.
Oui, je vous en prie.
Ce qui est un peu surprenant, c'est que Jean-Jacques O'Kelly, mon ancêtre, parlait parfaitement anglais, puisque j'ai trouvé de la correspondance qu'il échangeait avec son ami McCarthy de Bordeaux. La correspondance était en anglais. Et donc, ses talents linguistiques n'ont pas du tout été utilisés pour sa carrière diplomatique, puisqu'on l'a envoyé en Allemagne, où il avait comme confrère Oden, qui était beaucoup plus expérimenté que lui, mais qui était son voisin à Mannheim, pendant que lui était à Deux Ponts.
Oui, mais à l'époque, les élites parlaient français. Donc, il n'y avait pas un problème. Globalement, il y avait sûrement des exceptions. Mais globalement, si vous voulez, il parlait français. Donc, il n'y avait pas de grosses difficultés. D'ailleurs, ces réfugiés jacobites n'ont pas de difficultés linguistiques. Donc, ils devaient connaître le français, sauf exception. Il y a quelques contrats de mariage où on demande quand même un traducteur pour traduire le contrat de mariage. Mais c'est rare. La plupart ne demandent pas l'aide d'un traducteur. Donc, on peut penser qu'ils comprennent parfaitement le français. Dans d'autres activités encore, si on en revient aux activités militaires et aux activités de la haute administration, dans l'Église. Alors dans l'Église, il y a eu quelques vicaires généraux, mais il y a surtout eu deux prélats qui sont tout à fait intéressants, qui sont Mgr François Fitzjames, évêque d'Évreux, qui était le fils de Berwick, et qui était aussi le confesseur de Louis XV. Et puis, il y a eu surtout Arthur Richard Dillon, archevêque de Narbonne, dont on parlait tout à l'heure, et qui est revenu, je dirais, dans notre actualité. Alors, c'est assez extraordinaire, parce que tout le monde avait oublié Mgr Arthur Dillon. Mais voici qu'à l'occasion de la modification de la ligne qui relie Paris, l'Eurostar, en vieux français, qui relie Paris à Londres, on a changé de gare. Et ce n'est plus celle que nous avions jusqu'à présent, c'est-à-dire Waterloo, mais ça va être Saint-Pancras. Et il se trouve que quand on a travaillé, mis au point construit la gare de Saint-Pancras, la nouvelle gare de Saint-Pancras, on a découvert un cimetière. Et dans ce cimetière, on a trouvé la tombe de Mgr Richard Dillon. Les archéologues français anglais ont saisi les archéologues français, lesquels ont saisi les historiens. Bref, on a informé la municipalité et la région de Narbonne, et les Narbonnais ont dit « mais nous, ça nous intéresse au plus haut point ». Et on a assisté à ce spectacle hallucinant du retour des cendres de Mgr Dillon en grande pompe sous la présidence de M. Georges Frêche. Alors, ça a été extraordinaire. Lequel a fait, paraît-il, alors j'espère avoir un jour le texte de cette homélie, de cette conférence, qui était à la gloire des institutions de l'Ancien Régime, et en particulier des États de Languedoc, parce qu'il fonctionnait fort bien, et Mgr Dillon avait été un excellent administrateur. Il était connu comme tel. Les mauvaises langues disent même qu'il était meilleur administrateur qu'évêque. Mais enfin, ce sont les mauvaises langues, ça. Mgr Dillon et M. Georges Lefrèche a donc fait un discours à la gloire des institutions anciennes de régime et à la gloire de Mgr Dillon. Il paraît qu'il a terminé simplement son discours en disant « Il est dommage simplement que Mgr Dillon n'ait pas compris tout l'intérêt des droits de l'homme.
» Grâce lui soit rendue. Alors, il y a quelques messages qui arrivent. Bénédicte, je vais vous les laisser en donner lecture.
Oui, monsieur, un auditeur, la demeure de MacMahon... Le château de Sully.
Merci. Merci.
Pardon. Oui, je n'ai pas parlé devant le micro.
Il a raison, c'est le docteur Sully. C'est
de, en Bourgogne.
Oui, tout à fait. Merci à lui.
Une auditrice. Savez-vous si la famille Mac O'Olive fait partie des Jacobites? Et une troisième auditrice. Connaissez-vous la famille Souvestre qui viendrait de Soult, Wester, secteur de Morlaix?
Non, je ne connais ni la première famille, ni la deuxième. Encore une fois, je ne prétends pas à l'exhaustivité. Ça veut dire que ces familles peuvent très bien être d'origine irlandaise de l'époque, mais je ne prétends pas toutes les connaître. Je suis en train de regarder quand même si moi j'ai un MacAuliffe.
MacAuliffe, c'est bien un nom irlandais.
Alors, j'ai un Jean MacAuliffe que je cite dans mon ouvrage, donc autant pour moi. MacAuliffe, j'en ai trouvé un. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est celui dont on parle.
Et ils en existent toujours en Irlande aussi.
Très bien.
Alors nous avons un message. Messieurs, il y eut beaucoup de jacobites, notamment écossais, dans le Berry, à Aubigny-sur-Ner, fief de Louise de Kerwal, et l'on trouve encore aujourd'hui beaucoup des noms de cette origine, Mac Nab à Vierzon, Mac, etc., parmi des vignerons de Sancerre, etc. Je suis berrichonne. Très belle émission, merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, si cette dame a des informations à me communiquer, il faut qu'elle écrive à Radio Courtoisie, parce que je suis très preneur. Je sais qu'il y en avait eu, mais je n'ai pas eu l'occasion de travailler dans ce secteur-là. Ça veut dire qu'il faut peut-être que j'aille dans les archives du Berry, les archives berrichonnes, pour travailler sur ces familles. Et je suis tout prêt à recueillir tous les renseignements qu'elle voudra bien me faire transmettre.
Alors, nous avons... Oui, vous faites le rappel, Bénédicte.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rosteland. Ses invités sont M. Clark Daudremantin, docteur en histoire, auteur de l'ouvrage « Les réfugiés jacobites dans la France du XVIIIe siècle », ouvrage que vous trouverez au Centre interuniversitaire de documentation Boulevard Saint-Michel, auprès de Michel Zenkir, son téléphone 01 53 10 54 07, le prix du livre est 55 euros. Nous invitez aussi M. O'Hara, conseiller d'ambassade d'Irlande, et M. Patrick O'Kelly Farrell, descendant d'une famille jacobite installée en France à la fin du XVIIIe siècle.
Alors je précise que l'ouvrage de Patrick Clark de Dromantin sera également vendu lors de la soirée de remise du prix Renaissance 2008, le 30 janvier prochain. Lors de cette soirée qui sera à Paris, une soirée en tenue de soirée d'ailleurs, et qui verra, outre l'intervention de Patrick Clark Dromantin et la remise du prix par le professeur Jean de Viguerie, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, qui verra également une communication du baron Olivier Leclerc, d'une de ses familles jacobites évoquées tout à l'heure, et également une conclusion tirée par le professeur Yves-Marie Berset, membre de l'Institut, professeur émérite de la Sorbonne et ancien patron de l'école des Chartes. Tant qu'à évoquer des sujets d'activité à venir, permettez-moi de souligner le fait que dimanche 20 janvier prochain, se tiendra à Paris la Grande Marche Nationale pour la Défense de la Vie Humaine, avec le Comité pour Sauver l'Enfant à Naître et les autres associations du collectif 30 ans, ça suffit, en marche pour la vie. Le rendez-vous est à 14h30, place de la République, à Paris, dimanche 20 janvier prochain, et je crois savoir qu'il y a, il y aura de nombreuses, une participation importante, et également des soutiens d'un certain nombre d'évêques de France, et les associations de collectifs étant ACPERVI, SOS Maternité, AOCPH, Osez la Vie, CENS, CPLV en Saône-et-Loire, Laissez-les Vivre, SOS Futur-Mère, Promouvoir, Renaissance Catholique, Rivage, SOS Tout-Petit, et la Trêve de Dieu. Permettez-moi de souligner également le fait que le 13 mars prochain, mais je l'évoquerai lors de mes prochaines émissions de Radio Courtoisie, se tiendra la vente de l'œuvre des campagnes au bénéfice du clergé rural. L'œuvre des campagnes est une association dont on vient de fêter le 150e anniversaire, je le rappelle. Et cette vente aura donc lieu le 13 mars prochain dans les salons Hoche. Je crois que c'est 9 avenue Hoche, Paris 8e. mais je l'évoquerai à d'autres émissions.
Il y a un excellent livre sur l'œuvre des campagnes que je recommande aux éditeurs de M. Éric Mention-Rigo,
tout à fait,
qui s'appelle Le donjon et le clocher,
tout
et qui
fait
retrace toute cette histoire tout à fait extraordinaire de l'œuvre des campagnes.
Alors, je précise d'ailleurs que un article par Éric Mention-Rigo sera publié dans le prochain numéro du Lien des familles de France de janvier, apparaître sous 10 jours, évoquant justement cet historique de l'œuvre des campagnes. Le Lien des familles de France, c'est la même adresse que le Cercle Renaissance, c'est 138 rue de Tocqueville, Paris 17e, publication de généalogie qui souligne le 150e anniversaire donc de cette création de l'œuvre des campagnes. Voici donc pour quelques activités à venir.
Je peux revenir
mais
sur
tout
un,
à fait,
sur un sujet c'est, que nous n'avons pas évoqué tout à l'heure. C'est dans les activités économiques, ils sont également beaucoup investis dans les plantations à Saint-Domingue. Et là, on trouve quantité de familles irlandaises. J'en citerai quelques-unes, les Lucaire, les O'Rourke, les O'Gormand, les Walsh, toujours eux, les Stapleton, les McCarthy, les Butler, les Sutton de Clonard, les Botkin, les O'Shill et de Slade, pour ne citer que les familles les plus importantes. Ils ont également beaucoup donné dans la Compagnie des Indes. Alors, soit comme capitaine de navire, soit comme armateur, mais ils ont beaucoup donné ils ont beaucoup exercé d'activité dans la Compagnie des Indes. Une question qui revient souvent, on me dit, mais comment ça se fait qu'ils aient aussi bien réussi? Alors, lors de ma soutenance, on m'a reproché de ne parler que des gens qui avaient réussi. Alors, effectivement, j'ai surtout parlé de ceux-là, parce que ceux qui réussissent pas laissent pas beaucoup de traces. Donc, malheureusement, j'ai quand même dans le livre une lettre très, très poignante d'une demoiselle McCarthy qui explique que son père est décédé et qu'elle est complètement perdue. Alors, elle écrit à un grand de ce monde de l'époque et elle essaye d'obtenir des secours pour survivre. Mais c'est le seul exemple que j'ai trouvé. Encore qu'il y a également des lettres de veuves ou d'épouses d'officiers en difficulté et qui sont aussi très, très touchantes. Alors donc, pourquoi ont-ils réussi? Moi, je vois 4 ou 5 raisons. Ils ont réussi parce que d'abord, alors arrivés en France, ils avaient un capital de sympathie, c'est évident. Ils arrivaient dans un pays catholique, champion, Louis XIV, champion du catholicisme. Ils étaient des persécutés de la foi, et j'insiste là-dessus parce que quelquefois on essayait de minimiser cet aspect des choses, mais il n'en est rien. Ils venaient là, et notre ami M. O'Kelly Farrell l'a rappelé tout à l'heure, dans leur lettre de naturalité et leur lettre de reconnaissance de noblesse, et dans les différents documents en général, y compris en 1756, au moment où ils sont menacés d'expulsion, ils rappellent qu'ils sont des fidèles de la foi catholique et des fidèles des Stuarts, très souvent. Donc, un capital de sympathie qui explique qu'ils ont été bien accueillis globalement. Ils ont aussi un excellent réseau relationnel, manifestement très organisé, à travers non seulement l'Europe, mais le monde. Et des implantations comme celle que je viens d'évoquer à Saint-Domingue expliquent que le tissu était extrêmement, extrêmement diffus et extrêmement important. Ils ont aussi le sens anglo-saxon des affaires, manifestement. Ils se débrouillent mieux que les Français, vous savez, toujours un peu timides dans les activités économiques, semble-t-il. Donc oui, ça date pas d'aujourd'hui. Ils maîtrisent tout à fait la technologie, alors je ne dirais plus britannique, mais la technologie d'outre-Manche, comme ça, je n'aurais pas de souci. Et en fait, et également un point important que j'ai indiqué tout à l'heure à peine, ils n'ont pas de complexe de dérogeance, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de cette question-là, d'abord parce qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Ils étaient obligés, ils étaient contraints de réussir, je dirais, ou alors ils étaient perdus. C'est peut-être une des raisons aussi qui explique leur réussite, c'est qu'ils avaient une obligation de réussite, si j'ose dire. Ceci peut expliquer cela. Est-ce qu'on peut dire avec cela que pour être dynamique, il faut être persécuté? Je n'irai pas jusque-là, mais il est évident que ça peut aider quand on est sous la pression du besoin.
Et au sujet des affaires économiques, puis-je mentionner la Lorraine? Je le mentionne parce que mon épouse est lunévilloise et moi j'ai cru que j'étais le premier Irlandais à mettre le pied à Nancy, mais c'est pas du tout le cas. Et j'ai appris par ce livre qu'un certain Edward Warren est arrivé en 1699. Et c'est une histoire qui m'a impressionné beaucoup parce qu'il a construit des moulins à Nancy et aussi des poudreries et des salpêtreries aussi.
Salpêtreries, oui,
il donnait les poudres et les salpêtres. Oui, et aussi il est allé jusqu'à voir Louis Louis XIV. Pour obtenir la permission pour, afin de construire un moulin à Bar-le-Duc.
Oui. Oui.
Et moi, j'étais frappé parce que dans la préface du livre, il y a une citation de... Le préface est écrit par le professeur Philippe Lopez, qui a parlé de ces immigrés apparaissent profondément attachés à la France, sans pour autant oublier leur pays d'origine. Et la famille Warren était aussi à l'époque de Léopold Ier, avant Stanislas, le roi de Pologne. Et en fait, Edward Warren, ou son fils, est parti en Italie avec... Léopold avant de revenir. C'est frappant cet aspect de loyauté aussi parmi les Jacobites.
Oui, tout à fait. Oui. Mais Warren, c'est encore une réussite tout à fait remarquable. Mais lui, il était aidé quand même, parce qu'il avait rencontré un haut personnage irlandais et qui lui a donné un travail, finalement, à Nancy, et qui lui a permis, dans un premier temps, de s'installer. Et après, il a fait preuve d'un grand dynamisme, puisqu'il ne s'est pas contenté des salpêtres. Et il a fait beaucoup d'autres activités, vous l'avez dit. Et il avait une imagination débordante, et il a très bien réussi.
Et la personnalité qu'il a rencontrée, c'était le comte de Carlingford.
Voilà, c'est le comte
Carlingford. Et la famille Carlingford, leur titre, mais c'est leur nom de famille, c'était les Taff. Et les Taff sont allés en Autriche et en Bohême. Et ils faisaient partie de l'armée et l'administration des Habsbourg. Et il y avait un Taff qui est devenu, vers la fin du 19e siècle, le chancelier, c'est-à-dire le premier ministre de l'Empire autrichien aussi. J'ai aussi appris qu'on a mentionné Nancy, et la prochaine fois que je visite Nancy, je vais y aller, j'espère, voir qu'il y a une rue de Dublin. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est à côté de la porte de Saint-Nicolas.
Alors, nous avons reçu quelques messages. Bénédicte, si vous voulez en donner
un. Un auditeur dit, est-ce que le maréchal MacDonald est un descendant des Jacobites? Un autre auditeur, la franc-maçonnerie aurait été amenée en France par les Jacobites venant d'Écosse et d'Irlande, mais rien pour le vérifier. Une éditrice, pouvez-vous parler de M. Clark de Dromantin, capitaine de vaisseau, qui a commandé un cuirassé de la classe Lorraine entre 1920 et 1930?
Je le connais. Enfin, je le connais de façon livresque. C'est mon grand-oncle, c'est-à-dire c'est le frère de mon grand-père. Il y avait à ce moment-là, c'est les trois frères Clark. L'aîné avait fait naval, était donc officier de marine, c'est celui dont on vient de parler. Le deuxième, Saint-Cyr, avait fait une carrière dans la cavalerie. Et le troisième avait fait polytechnique, il avait commencé une carrière dans l'artillerie, puis après il a, comme on dit, pantouflé, et il est devenu délégué général des messageries maritimes pour l'océan Indien. Oui, effectivement. Alors, les deux autres questions, vous me rappelez.
Alors,
La franc-maçonnerie, oui, c'est un sujet que je n'ai pas abordé volontairement dans mon livre, parce que c'est vrai que je pense que les Jacobites ont été de ceux qui ont amené la franc-maçonnerie en France, mais c'est un sujet qui mérite lui-même un ouvrage. Il n'était pas question pour moi d'aller jusque-là, sinon je n'en serais pas sorti. Donc, j'ai bien précisé dans la préface que je ne traitais pas cette question, mais c'est tout à fait vrai. Et puis, il y a une question aussi sur les McDonald's. Alors tout à fait, mais lui c'est un Écossais. Le maréchal de MacDonald est un Écossais et effectivement il était d'origine jacobite, tout à fait.
Alors chers amis auditeurs, je vois que nous arrivons au terme de cette émission dans quelques minutes. Je vais vous donner quelques titres d'ouvrages que j'ai reçus, qui méritent votre intérêt me semble-t-il. Le livre noir de la culture de mort, paru aux éditions de Renaissance catholique, un ouvrage de Rémy Fontaine, au prix de 15 euros. Un ouvrage, pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie biblique et d'histoire de l'Église ancienne, lexique d'archéologie biblique et de l'histoire de l'Église ancienne, un ouvrage de Daniel Racine, préface de Michel Gendrel. Cet ouvrage a été publié par le Centre de recherche d'information et d'entraide à Mulhouse. Voilà, c'est une espèce de dictionnaire, c'est ça, de lexique, pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie biblique. Un autre ouvrage également de Pierre Descaves, qui fut mon collègue à l'Assemblée nationale, qui est un pied noir, vient d'écrire une autre histoire de l'OAS, Topologie d'une désinformation, qui est un ouvrage paru aux éditions Collection Xénophon Atelier Folfer, ouvrage vendu au prix de 20 euros. Donc voici pour quelques ouvrages que je voulais porter à votre connaissance. Bénédicte, il nous reste, je crois, deux questions. Nous n'aurons pas le temps. Ah oui, je rappelle, puisque cela a été à nouveau posé comme question, pourquoi jacobite ? Parce que Jacques de Stuart, Jacobus en latin, voilà. Ce sont les partisans de Jacques de Stuart, partisans du roi catholique, qui était contre le gendre de celui-ci, Guillaume d'Orange, le partisan de Guillaume d'Orange, appelant les Williamites. Patrick Clark de Dromantin, nous avons encore deux minutes, une petite conclusion, à moins que les uns ou les autres désirent s'y prêter également.
Écoutez, la conclusion, c'est pas moi qui vais la donner, c'est M. Chaussinon-Nogaré, qui est l'un des rares historiens français à s'être intéressé à cette migration. Il a fait un article tout à fait important et remarquable sur le sujet. Et il était l'un de ceux qui m'a incité à faire le travail que nous présentons aujourd'hui, parce que, malgré cet article, il dit que le travail reste à faire. Et voilà comment il s'exprime, en parlant de la migration jacobite. Il s'agit pourtant là d'un phénomène majeur, le cas unique dans toute l'histoire de l'Europe moderne, de toute une aristocratie qui, à la suite de son souverain, s'établit durablement à l'étranger. L'histoire de l'insertion de cette population insulaire reste à faire. Elle sera pour l'essentiel l'histoire de la fusion d'une élite étrangère dans les élites dirigeantes du pays d'accueil. Fermez les guillemets, fin de citation, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Eh bien, chers messieurs, merci beaucoup. Et je voudrais dire aux représentants de l'ambassade d'Irlande que nous sommes très honorés d'avoir reçu un représentant de votre pays avec lequel la France a des liens tout à fait particuliers, historiques, comme l'a évoqué Patrick Lara de Dromantin, mais également d'affection et de religion aussi. Je n'oublie pas que la principale liaison aérienne, c'est Dublin-Lourdes, presque aussi importante que Dublin-Paris.
Presque autant, et aussi important, et je peux mentionner que cette année, c'est le 5e anniversaire des pèlerinages de notre armée à Lourdes, cette année 2008.
Eh bien, merci de l'avoir annoncé au micro de Radio Courtoisie. Chers auditeurs, j'aurai plaisir à vous retrouver dans 4 semaines. Merci.
Dans le cadre de nos archives non diffusées à ce jour et à la demande de certains de nos auditeurs, vous venez d'entendre le libre journal de Michel de Rostolan, document d'archives du 14 janvier 2008, diffusé lundi 6 juillet 2026 de midi à 13h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.